Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode où on va parler de l'entreprise Danone. Mais avant tout, je voulais faire un point d'actualité avec vous et notamment parler du secteur automobile. En ce moment, on est à la publication des résultats du secteur automobile et si vous me suivez sur Instagram, vous auriez pu voir la. Vous avez sûrement pu voir aussi la story que j'ai mise, que j'ai postée, l'incidence de la publication des résultats sur la variation du cours des actions. Donc ça présentait toutes les entreprises du secteur automobile européen. Et les variations qu'il y avait de ces actions en fonction de la publication et suite à la publication de leurs résultats. On a vu qu'il n'y avait que Renault qui était positif suite à la publication de leurs résultats. Il y a plusieurs interprétations qu'il y a à en faire. Parce que dans le lot, on a par exemple l'entreprise Ferrari, qui est déjà un business model complètement différent. Donc ça, il faut le prendre avec du recul. Ce n'est pas du tout de la production de masse. On a des entreprises comme Stellantis qui, eux, ont vu leur cours de bourse et leur capitalisation beaucoup plus boostée que Renault auparavant. Donc c'est normal qu'on ait un effet de normalisation. On a des entreprises, par exemple, comme BMW, Mercedes-Benz, qui aujourd'hui souffrent un petit peu du côté de la réglementation des voitures électriques parce que les entreprises allemandes étaient beaucoup connues avec des moteurs thermiques. Donc aujourd'hui, on a des difficultés à ce niveau-là. Parce que les moteurs électriques, non pas qu'ils ne sont pas performants, etc. C'est pas du tout le sujet. Moi, je m'y connais moins. Enfin, je m'y connais pas trop sur le sujet. Mais c'est bien parce que leur côté chaîne de valeur et leur côté économie d'échelle est beaucoup moins puissant dans les entreprises allemandes parce que eux, ils avaient fait des économies d'échelle notamment sur les gros moteurs thermiques plutôt que sur les moteurs électriques. Donc il y aura du temps avant que ces entreprises-là deviennent performantes sur ce secteur-là. Et puis notamment, nous avons eu aussi des effets de déstockage, des augmentations des matières premières, des augmentations aussi. L'Allemagne devient beaucoup moins compétitive sur ce secteur-là. Et puis on a eu aussi des résultats qui n'ont pas plu aux investisseurs, parce que notamment ces entreprises qui auparavant devaient rassurer sur le secteur industriel automobile, aujourd'hui peut-être le font moins, ou du moins peut-être que les investisseurs étaient beaucoup trop optimistes sur ces entreprises-là. Qu'elle ne devrait l'être, et du coup, aujourd'hui, elle corrige le cours de l'action. Donc, faire attention à cet aspect-là, prendre du recul et non pas penser que Renault est leader sur le marché. Faire attention, parce que ce n'est pas forcément le cas, mais ça veut dire aussi que peut-être que Renault était sous-évalué aussi pendant le Covid, faut penser à ça. L'entreprise valait trois fois ses capitaux, ou son PER était de 3, un truc comme ça, bref, a été complètement sous-coté. Et aujourd'hui, on a une remontée du cours qui est normalement légitime parce qu'on a une nouvelle gamme de produits, on a des nouvelles économies d'échelle, de la nouvelle synergie qui arrive, une nouvelle gamme avec Dacia, avec Alpine, et même avec Renault, et avec des marges beaucoup plus importantes. On a une nouvelle dynamique qui s'est installée, un nouveau mode de production. Donc tout ça implique aussi un nouvel optimisme de la part des investisseurs et de la part de la gouvernance de Renault. Donc on a un équilibrage en fait qui se fait. Donc faut pas se dire que voilà, il faut investir forcément sur de Renault, il faut se délester des actions comme Ferrari ou comme des actions du secteur automobile allemand. Non, pas du tout. On a aujourd'hui le secteur de l'automobile est un peu en crise structurelle en ce moment sur cette décennie. Et on a cette complication. Moi, par exemple, Ferrari, je ne la mettrais même pas sur le secteur automobile, je la mettrais sur le secteur du luxe. Pour moi, c'est du LVMH. Ferrari, il n'y a pas. Enfin, c'est plus du Hermès même, en fait, Ferrari. C'est pas. Ferrari, c'est quoi? C'est des voitures qui sont faites à la main, on prend du temps à faire une Ferrari. On customise sa Ferrari, on commande sa Ferrari. On commande pas sa Ferrari comme on commanderait, par exemple, une Renault. Enfin, c'est complètement différent le business model de Ferrari. La marge est complètement différente, la façon de faire, la façon de produire est complètement différente. Donc, il faut faire très attention entre production de masse et production à la demande, c'est complètement différent. Voilà. Donc, pour revenir à notre sujet sur Danone, comme d'hab, je vous ai fait un petit avantage-inconvénient, une petite présentation d'entreprise. J'essaie de faire de plus en plus court par rapport aux épisodes précédents parce que je constate que c'est un peu long en fait. Quand je réécoute mes épisodes, je me dis bon bah je le laisse, mais en fait c'est un peu long. Du coup, là, j'essaye de faire un peu plus court pour essayer de condenser un peu la chose et parler surtout de l'aspect financier. Et j'essaye quand même de garder cet aspect-là de présentation parce que je considère quand même que c'est important. Donc, on a Danone, qui est une entreprise multinationale française spécialisée dans l'industrie agroalimentaire, principalement connue pour ses produits laitiers, les eaux en bouteille, les produits nutritionnels et les aliments pour bébés. Elle est fondée en 1919 et l'entreprise est présente dans plus de 120 pays à travers le monde. Donc voilà, je ne vais pas vous apprendre ce que c'est Danone avec l'eau Evian, avec les comment les yaourts Danone, Enfin, la nutrition pour bébé. On a toute la nutrition pour les JO avec les produits protéinés. On a également plein de produits. Par exemple, on a une glocalisation un petit peu du portefeuille de Danone. C'est-à-dire que c'est une multinationale qui a ses propres règles et ses propres pratiques. Néanmoins, elle adapte son portefeuille de produits à la région. Par exemple, au Brésil, elle va adopter ses propres produits. En Asie, je ne sais plus si elle est trop présente en Asie, elle va adapter également ses produits. Enfin, c'est cet aspect à la fois global et local que Danone va aborder. Ensuite, en termes d'avantages d'investir sur Danone, nous avons dans un premier temps un portefeuille qui est diversifié, de marques bien établies. Donc Danone possède un portefeuille de marques mondialement reconnues telles que Actimel, Activia, Evian, Aptamil, offrant une diversification des revenus et une stabilité sur le marché. Ensuite, on a un engagement envers la durabilité. Danone s'est engagé à promouvoir la durabilité environnementale et sociale de ses opérations et sa chaîne d'approvisionnement, ce qui peut attirer les investisseurs socialement responsables. En 3, nous avons une présence mondiale. Donc, comme je l'ai dit, des activités dans plus de 120 pays. Donc, Danone bénéficie d'une large empreinte géographique, ce qui réduit sa dépendance à un seul marché et offre des opportunités de croissance internationale. Nous avons ensuite, en dernier avantage, l'innovation continue. Danone investit dans de la recherche et développement pour innover et développer des nouveaux produits répondant aux besoins de changeants des consommateurs, ce qui maintient sa compétitivité sur le marché. Alors, sur ce dernier point, je voulais apporter quelques précisions. Dans un premier temps, l'innovation sur le plateau de Saclay, c'est un plateau de recherche et développement. On a Danone qui s'est installé pour développer justement de nouveaux produits et investir dans l'innovation. Et puis en termes de rentabilité et de compétitivité, Danone avait eu du mal pendant l'ère. Pendant. Mince. J'ai oublié. L'ancien PDG. Emmanuel Faber, pardon. J'étais en train de chercher, non, c'est bon, c'est revenu. Pendant l'ère Emmanuel Faber, on a une toute autre politique qui s'est mise en place au détriment un petit peu de la rentabilité. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a été limogé du conseil d'administration. Et là, aujourd'hui, on a avec Antoine de Saint-Affrique un retour à la rentabilité qui est vraiment présent et qui se constate au fil du temps. Donc on va regarder un petit peu comment évolue tout ça dans le temps. Ensuite, en termes d'inconvénients d'investir dans Danone, nous avons la sensibilité aux matières premières. Donc Danone est sensible aux fluctuations des prix des matières premières, telles que le lait, les céréales, le sucre, ce qui peut affecter ses marges bénéficiaires. Nous avons également la concurrence intense avec le marché de l'industrie agroalimentaire qui est hautement concurrentiel, avec la présence de nombreuses marques nationales et de distributeurs privés, ce qui peut exercer une pression sur les prix et les marges bénéficiaires de Danone. Alors, c'est vrai qu'on va parler de Nestlé, par exemple, on va parler d'Unilever, de Procter & Gamble, je ne sais pas s'ils font des produits laitiers, mais admettons là, tous ces conglomérats-là qui sont ultra imposés et ultra imposants. On a également toutes les marques de distributeurs, des marques les plus connues comme Carrefour, Leclerc, etc., qui prennent quand même certaines parts de marché. Ensuite, on a le défi de la santé. La Danone fait face à des défis liés aux tendances de consommation, y compris la tendance croissante de produits alimentaires sains et biologiques, ce qui peut nécessiter des investissements supplémentaires dans la recherche et le développement. Alors, comme je l'ai dit, on a beaucoup de marques de distributeurs qui sont déjà compétitives, c'est vrai que c'est le mot que j'allais employer, mais aussi très, enfin, qui influencent fortement la concurrence sur Danone, puisque déjà elles sont plus compétitives en termes de prix. Les acheteurs sont habitués d'aller acheter des marques de distributeurs. Donc Danone est obligé d'investir dans la recherche et développement pour se démarquer de cette tendance de consommation et de ses produits. Notamment, on a les Activia, les Actimel qui apportent des choses supplémentaires. Donc on a un côté marketing, bien évidemment, mais on a toujours ce produit et ce petit truc en plus chez Danone. Ensuite, le risque réglementaire. Danone est soumis à la réglementation gouvernementale dans les pays où il opère, ce qui peut entraîner des coûts de conformité réglementaire et des risques liés à de nouvelles lois et de règlements. Donc voilà, j'ai essayé de condenser un peu plus la présentation, les avantages et les inconvénients. On va passer tout de suite directement sans transition à la finance. Donc là, au ratio, au chiffre d'affaires, tout ça, tout ça. Alors moi, qu'est-ce que je regarde quand j'analyse une action comme Danone? Alors pour moi, Danone, c'est un peu compliqué parce que si on regarde purement son profil d'action, elle avait plus une action type de rendement plutôt qu'une action de croissance précédemment. Aujourd'hui, pour moi, c'est plus une action de croissance. Du moins, j'espère qu'elle va le redevenir comme telle parce que c'est une entreprise qui est prometteuse sur son secteur. Son portefeuille est ultra bien diversifié. Elle a des niches qui sont rentables. Elle doit revoir quelques points de son portefeuille, notamment des choses qui sont moins rentables, qui rapportent pas grand-chose par rapport à un investissement en marketing requis. On a un positionnement de Nestlé qui est souvent ultra compétitif sur certains segments. Donc on a une nécessité de Danone de se réorienter et on sent cette dynamique qui est enclenchée depuis l'ère Antoine de Saint-Affrique. Donc, qu'est-ce que nous avons en termes de PER? Aujourd'hui, c'est une entreprise qui se négocie autour entre les 20, 17 et les 20 de PER. Donc, c'est quelque chose qui est plutôt correct. Mais pour moi, c'est un peu cher. Pourquoi? Parce qu'on a des marges théoriquement qui ne sont pas ultra, ultra élevées dans le secteur agroalimentaire, notamment de grande distribution. Donc, en fait, sur les produits spécialisés, on va avoir de la forte marge parce que Danone est leader. On a de la recherche et de développement, donc on peut se permettre de vendre plus cher. Mais à côté, ce qui va diluer notre performance, c'est de ça que je parlais juste avant, c'est cet aspect grande distribution qui est assez pénalisé parce qu'on a, en fait, pour générer du cash, on est obligé de passer par les grandes surfaces. Et les grandes surfaces mettent beaucoup de pression aux producteurs pour ne pas augmenter énormément les prix parce que déjà, ils veulent conserver leur marge et puis ils veulent conserver leurs clients aussi. Donc on a cette notion de pression des grandes surfaces qui est compliquée donc dans la grande consommation. Quand on n'a pas de concurrence notamment, quand on a des gens qui veulent consommer leur Actimel ou quand on a des gens qui veulent consommer leur Evian. Là, l'Evian, j'avais entendu parler l'année dernière ou cette année, l'année dernière je crois, qu'on avait eu Danone qui avait énormément augmenté ses prix. Ça avait été accepté par la grande surface parce que dans tous les cas, ça allait être acheté. Ou du moins, ça avait été refusé. Ils avaient baissé leur augmentation et dans tous les cas, ça avait été accepté. Mais comme quoi c'est compliqué les négociations avec la grande distribution. Alors, je dis pas que c'est la faute de la grande distribution parce que Danone aussi augmente ses prix. Donc en termes de PER, moi je paierais un peu moins parce que quand je regarde directement la marge, je vois qu'on est à une marge de. Bah, déjà, on a une marge qui s'est réduite en 2022 et en 2023. Elle est passée de 7, entre 7 et 8 en 2019. À 3,47 en 2022 et 3,19 en 2023. Donc à voir pourquoi. Pourtant, on a une augmentation du chiffre d'affaires. On a dû avoir une augmentation des charges. Je ne l'ai pas ici. Non, j'ai pas les infos ici. Tac. Non, ouais, on a une réduction du résultat. Donc, faudrait aller voir en détail dans le rapport financier pourquoi on a eu cette marge qui s'est considérablement réduite. Néanmoins, on constate qu'en 2024, si les analystes ont raison, on revient à une marge qui est quand même assez intéressante de 7,92%, donc comme en 2019. Je veux juste aller voir un truc. Moi, c'est si Nestlé. Je vois la bourse, parce que je vois la marge de Nestlé parce que. Théoriquement, j'attendrais environ 10%. Là, on est un peu en dessous, donc c'est pour ça que je ne paierais pas aussi cher. Mais je veux confirmer que Nestlé, on est autour des 10%. Je ne vais pas dire de bêtises. Hop. Elle a la marge. Ouais, voilà. C'est ça. On est même au-dessus. On est entre 9,80 et 12%. Voilà. C'est pour ça que je disais que Nestlé avait cette position dominante. Et cet aspect beaucoup moins dilué de la performance, parce que on constate enfin, direct une marge beaucoup plus importante chez Nestlé, donc ça veut dire qu'elle a ce pricing power beaucoup plus important. Donc c'est pour ça que je la paierai moins cher. Je la paierai pas à ce prix-là. Après, voilà, c'est pas un conseil d'investissement comme d'habitude, c'est qu'un avis. Mais pour moi, elle est un peu chère. Mais après, si on retrouve cette performance et si on a une augmentation, et comme on le voit. Sur les investisseurs, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent les analystes, ils nous disent quoi? Qu'on a une augmentation de la marge progressive de 7,92 à 8,51% sur 2026. Après 2026, ça reste des estimations, d'estimations, d'estimations. Faire très attention. Pour revenir à nos fondamentaux, nous avons. Est-ce que nous avons des rachats d'actions? Alors, nous n'avons pas de rachats d'actions. Si nous avons des rachats d'actions, on passe de 649 à 641 en nombre d'actions, donc on a quand même un peu de rachat d'actions. Et en termes de chiffre d'affaires, on a une augmentation du chiffre d'affaires entre On a une stagnation même du chiffre d'affaires. Donc ça veut dire peut-être qu'on n'a pas une augmentation des prix aussi importante qu'on ne le pensait. Par contre, peut-être qu'on a une augmentation en volume. Donc théoriquement, avec l'ouverture de nouveaux marchés, des nouvelles tendances de consommation, qui nous a permis d'avoir une augmentation en volume, peut-être pas une augmentation en prix comme souhaité. Donc à voir, comme je vous l'ai dit, avec la pression des grands distributeurs. Néanmoins, en termes de bénéfice net par action, alors on l'a vu, est-ce qu'on joue vraiment avec notre achat d'action? Ben, on va le voir tout de suite. On a un bénéfice net par action en 2019 qui est de 2,9 et qui passe à 1,3 en 2023. On a vraiment une grosse baisse du bénéfice net par action. Et on a en 2024 un bénéfice net par action de 3,4. Alors moi, je vais laisser ce que disent les analystes pour eux, parce qu'une grosse augmentation comme ça du bénéfice net par action, je le souhaite à tout le monde. Malgré tout, quand il y a une grosse différence, je reste dubitatif et j'essaye d'analyser moi-même, hein, parce qu'il y a une grosse différence quand même. Alors, en termes de rachat d'actions, donc comme je l'ai dit, entre 2022 et 2023, on a 20 millions d'actions en plus quasiment, et on a du coup une dilution du bénéfice net par action parce qu'on a on a un résultat net qui est déjà un peu plus bas. Donc c'est pour ça qu'on a une baisse du bénéfice net par action. Et je veux voir le dividende. Ah ouais, le dividende en plus il augmente. Ouais, il reste stable et il augmente un petit peu dans le temps, sachant que le bénéfice net par action n'a pas augmenté vraiment durant ces dernières années. Donc à voir en fait, les prochaines années vont être cruciales parce que on a eu ces deux creux là en 2022 et 2023. J'espère qu'il y aura cette remontée en 2024 et en 2025 pour retrouver cette tendance progressive sur les prochaines années, parce que c'est très important pour retrouver cette dynamique et cette confiance des investisseurs. Néanmoins, c'est censé être une action qui est assez importante parce qu'on consomme du Danone tous les jours. Danone, c'est quand même une action qui fait partie de notre environnement. Donc, on devrait normalement pouvoir retrouver cette dynamique. Ça devrait être essentiel. On a ensuite un retour, donc une rentabilité sur les actifs. Donc, le résultat net sur actifs qui est assez intéressant. Après avoir, parce qu'on utilise la dette. Hein, on voit qu'on utilise la dette chez Danone, on est encore en millions, donc on a 12 milliards de dettes en 2019, on a 10 milliards en 2023, on a un rendement sur actif de 5, à voir à combien on s'endette. Ça pourrait être intéressant parce que 5, c'est pas non plus super élevé, c'est toujours intéressant, mais voilà, à voir. Ensuite, en termes de CapEx, on est à 3% du chiffre d'affaires. Ça rappelle un petit peu Schneider Electric, l'épisode précédent. Donc, vous voyez, si on parle de Schneider Electric, sincèrement, c'est pour ça que je vous l'ai dit au début de l'épisode. Je vous invite à aller l'écouter si ce n'est pas fait. L'épisode sur Schneider Electric, on a dit qu'on avait eu un PER qui était important. Pourquoi? Parce que c'est une entreprise qui tenait, entre guillemets, ses promesses, en tout cas qui n'a pas déçu ces dernières années. Malgré les cycles économiques, on dit que c'est une entreprise cyclique, etc. Malgré tout, c'est une entreprise qui tient et son cours de bourse tient. C'est pour ça qu'elle a un PER élevé et en fait, elle peut être surévaluée. On peut dire qu'elle est surévaluée, mais finalement, elle ne déçoit pas forcément les marchés. Encore une fois, ce n'est pas un conseil en investissement, je tiens à le répéter. Donc aujourd'hui, c'est sûr que les gens, je comprends, même les fonds d'investissement, s'orientent vers des actions comme Schneider Electric. Après, est-ce qu'il faut parier sur l'avenir ou pas? Ça, c'est chacun qui souhaite, chacun souhaite investir comme il le veut, comme il l'entend. Mais après tout, chacun oriente son portefeuille comme il le souhaite. Après, ça peut être un bon élément pour diversifier son portefeuille. On a une action qui est censée être stable dans le temps. On n'aura pas des grosses variations économiques sur des actions comme Danone, parce que la tendance de consommation ne change pas pour autant. Ça reste des produits de première nécessité que les gens consomment. Après, voilà, les gens peuvent changer de marque, machin. Mais il y a quand même des habitudes qui sont ancrées. Et en général, on ne change pas aussi de marque aussi facilement que ça. La recherche et l'innovation également est très importante chez Danone. Qu'est-ce que je voulais voir? Voilà. En termes de PER, le PER est quand même assez élevé, hein. En 2019, on a 25 de PER, ce qui est, enfin, comme je vous l'ai dit, chez Schneider, on n'était pas loin de ces taux-là. Enfin voilà, 18, ça me paraît plus cohérent, 17. Admettons. Admettons, si on est sur du 17 de PER, même je vais dire 15, je vais être pessimiste, je vais dire 15. On va prendre truc, résultat net, 881 fois 881 fois, allez, 15. 15, ok. Divisé par, on est combien là? 641. On est à 20 euros. On est à 20 euros, c'est vraiment pas élevé. Avec un PER de 15. Après, je vais pas prendre 2022 et 2023 parce que quand même des PER de 45, des bénéfices aussi faibles. Je vais aller lire le rapport, je l'ai pas lu dernièrement. Je vais lire le rapport des bénéfices. Pourquoi on a eu ce creux-là? Peut-être qu'on a eu la sortie des actifs russes. Faut pas oublier qu'on a eu cette chose-là, enfin cette chose-là, ce conflit-là. Peut-être aussi qu'on a eu des pouvoirs, peut-être, je sais pas, des investissements. Là, je suis pas allé dans le détail dans les rapports. J'avais omis complètement qu'il y avait eu cette baisse complète des résultats nets. On va prendre 2021. On va rester sur 2021 parce que ça me paraît cohérent. On est sur du lycée. On va prendre 1920. 1920. Tac tac. Normalement, on va arriver dans les 40 et quelques hein, fois 15 divisé par 141. Voilà, 41,9. Ce qui me paraît beaucoup plus cohérent. Aujourd'hui, on est à 59. Bourse Danone. Après, voilà, c'est encore des calculs très vite fait. J'ai pas fait une analyse complète. Là, à chaque fois, je vous dis, je prends le screener comme ça, au feeling. Je pourrais faire des analyses beaucoup plus complètes, prendre le temps de lire les rapports. Ça va peut-être être des épisodes qui vont venir dans le futur. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, je le fais comme si voilà, on prenait de brut, on prenait en live et on essaie d'analyser en live et à chaud. C'est aussi intéressant parce que ça permet vraiment de comparer et de prendre les idées qui nous viennent. Alors, 40, qu'est-ce qu'on a dit? Oui, on voyait, on a eu deux rebonds sur les 47. Donc on est pas très loin de entre 15 et 17 de PER en moyenne. On a eu un gros rebond en 2020 sur les 47 et un gros rebond en 2022 sur les 47 également. Donc on a eu ce point-là quand même, hein, 47 qui était assez significatif. Donc on aurait un PER de 36 aujourd'hui à 50, vu que le revenu net a beaucoup diminué, ce qui est toujours aussi élevé. Donc en fait, peut-être que on a eu. Donc là en fait, ça montre quoi? Ça montre que finalement, on a dû avoir une nouvelle dans les rapports financiers que je vous invite à lire, puisque on a quand même un cours qui est censé être de 36 de PER si on le prend à 50, donc c'est-à-dire un cours qui est en général celui sur lequel ça a rebondi, pour parler vraiment grossièrement, vraiment grossir le trait. J'aime bien voir ce côté tendance, ça me permet vraiment de visualiser encore une fois à chaud. Et PER de 36. C'est encore assez élevé. Donc on a peut-être eu des nouvelles qui sont tombées dans les résultats de Danone. Bah, vous savez quoi, on va aller voir en fait, hein. Danone, rapport 2023 par exemple. On va sur le tout simplement sur le site Les Échos Investir. Parce que j'ai pas trouvé leur rapport là avec. Ou du moins là le rapport bug, il n'arrive pas à générer. Donc peut-être qu'il est plus bas, mais juste j'arrive pas à le générer. Donc. Alors, qu'est-ce qu'on lit sur Les Échos? Le groupe alimentaire annonce jeudi s'attendre à un ralentissement de la croissance, je vous invite à faire, après avoir enregistré la déconsolidation des activités des produits laitiers d'origine en Russie. Voilà, on parlait de la Russie, de la dépréciation, et une dépréciation liée aux ventes de produits laitiers biologiques aux États-Unis. Donc, on a la déconsolidation des activités de produits laitiers en Russie, c'est ce qu'on pensait. Pour 2024, anticipe une croissance de son chiffre d'affaires comprise entre 3 et 5% en données comparables et une nouvelle amélioration modérée de sa marge opérationnelle, a indiqué le groupe. Dans un contexte qui reste difficile, l'amélioration progressive de notre volume mixte devenu positif au quatrième trimestre, activité de même que la dynamique de la croissance, nutrition médicale, quatrième trimestre, ses ventes reculées de 5% en données publiées, 5, lestées par la déconsolidation des activités en Russie et la dépréciation relative de la signature d'un accord pour la vente des activités de produits laitiers biologiques aux États-Unis. Ok. Alors, on va faire un petit truc. Une croissance du chiffre d'affaires comprise entre 3 et 5%. On va prendre 4%. On va faire simple. 3%. Hop, hop. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre 2023. 27 619. fois 1,04 pour mettre 1% de croissance. Ok, 28,724 fois. On va pas prendre d'amélioration de la marge parce qu'il considère une amélioration modérée de la marge. Donc moi, je vais pas prendre d'amélioration de marge. Malgré que quand même 3%, on est assez bas. Donc, est-ce qu'en Russie on produisait à bas coût? À voir. Faudrait retrouver le rapport. Alors fois 0,0319, on aurait un résultat net de 916 fois 17, hop, divisé par 641, notre nombre d'actions. On aurait un cours d'action à 24 pour un PER moyen de 17. Donc encore une fois, à voir ce qu'on nous dit dans les rapports, mais toujours porter forte performance. Il est là. Mais pourquoi il n'était pas là, le rapport là? Résultat net courant, chiffre d'affaires au T4, pénalisé en particulier par un impact fortement négatif des taux de change, donc moins 6%, reflétant la dépréciation de la majorité des monnaies face à l'euro. Ouais. Le chiffre d'affaires publié a aussi été pénalisé par l'effet du périmètre négatif, donc moins 5,8, résultant principalement de la déconsolidation en juillet des activités, toujours en Russie. Enfin, l'hyperinflation a une contribution positive de 2,8% au chiffre d'affaires. Ce recul s'explique principalement par l'impact fortement négatif de l'inflation du coût des intrants. Donc les intrants, c'est les matières premières qui sont utilisées pour produire le produit fini qui va être vendu. Donc moins 730 points de base net effet de productivité. Indique Danone, cet effet négatif a été partiellement compensé par l'impact positif des leviers de croissance qui intègrent le volume, mix prix, pour un effet cumulé d'environ 570 points de base. Donc on a un écart quand même entre 700 et 500. Donc on a vraiment cet impact de la Russie qui est assez important, notamment chez Danone. Donc c'est ça qu'il faut surveiller dans le futur, faire attention à cet impact et voir comment Danone se réoriente. Et puis voilà, mais après moi, pour moi ça reste une belle action qui permet de diversifier un portefeuille. Et pour moi, elle est tout à fait intéressante parce qu'elle est quand même entre 7 et 8% de marge nette si on ne prend pas 2022-2023 avec les difficultés. Là, on va retrouver a priori en 2024 7,92 de marge nette. Selon les analystes, ça me paraît un petit peu optimiste, mais nous allons voir. On ne va pas être non plus que pessimiste. Il peut y avoir des opportunités de marché qu'on ne constate pas. Mais après tout, voilà. Comme je vous l'ai dit, moi, c'est une action qui peut être un peu chère en ce moment. Surtout que là, quand je vois le bénéfice distribué par rapport au dividende, la part est assez importante, donc c'est pas forcément ce qu'il y a le plus beau à voir. Donc on veut conserver l'actionnariat. Ça veut dire qu'on sort de la liquidité alors qu'on pourrait investir. À voir avec le temps, à voir en 2024 ce qu'on nous sort pour la fin, pour les trimestres à venir et puis pour l'année complète. Et puis voilà. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram à Alitis Finance, A-L-I-T-I-S. Donc si vous avez des idées d'entreprise que vous voudrez que j'analyse. Et puis si vous avez des questions pour les épisodes de FAQ. Puis même si vous voulez juste avoir des informations supplémentaires, n'hésitez pas à aller voir. Et puis moi, je vous invite à aller écouter les anciens épisodes. C'est aussi pertinent, vous allez pouvoir apprendre des choses. Et puis je vous dis à plus pour le prochain.